Renaud d'Elissagaray, 1652-1719, un Basque amphibie guerrier sous Louis XIV. Voici une conférence de Michel Virol de la Société des sciences lettres et arts de Bayonne, professeur des universités en histoire moderne à l'université de Rouen. Conférence enregistrée le 20 octobre 2021 à la Peña Taurine Côte Basque à Bayonne. Renaud d'Elissagaray, un basque amphibie guerrier sous Louis XIV, Michel Virol.
La SSNA avait invité en 1932 un conférencier, Jean de Bagneux, qui a intitulé sa conférence Renaud d'Elissagaray, un basque illustre. Il a publié son texte dans un bulletin de la société en 1932. Donc, je ne dirais pas que Renaud d'Elissagaray est illustre, mais certainement qu'il est dans son siècle, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, il était reconnu du roi, il était reconnu du roi d'Espagne, il a été reconnu par le régent. C'est un personnage avec lequel il faut compter, mais on peut dire que les siècles passant, on a oublié Renaud d'Elissagaray, et il faut attendre le XXe siècle pour que les historiens, de nouveau, s'intéressent à lui. Et tout d'abord, les historiens de la marine, parce que Renaud d'Elissagaray est avant tout un ingénieur de la marine qui a piloté aussi, je vais vous en parler, des vaisseaux importants. Et donc la bibliographie que vous avez sous les yeux, c'est simplement pour vous montrer qu'on parle depuis le XXe siècle de Renaud d'Elissagaray, mais avant tout dans les ouvrages d'histoire de la marine, et notamment dans le célèbre ouvrage de Daniel Dessert sur la Royale, 1976, il est question de Renaud d'Elissagaray. Après les historiens de la marine, les historiens qui se sont intéressés à l'Académie des sciences, et notamment aux éloges des académiciens par Fontenelle, ont aussi travaillé sur l'éloge d'Elissagaray par Fontenelle, parce que Renaud d'Elissagaray est entré à l'Académie des sciences comme membre honoraire en 1699. Donc forme de reconnaissance et intérêt pour les historiens. Troisième temps, et là nous sommes plutôt dans les années 1980-1990, ce sont les historiens des techniques qui ont redécouvert les textes de Renaud d'Elissagaray, ces textes sur la construction des bateaux et les manœuvres des vaisseaux. Je vais vous en reparler. Moi-même, j'ai rencontré Renaud d'Elissagaray dans les archives de Vauban, parce qu'il est devenu un proche de Vauban quand il a travaillé aux fortifications terrestres, et certains documents des archives de Vauban sont en fait des plans, des cartes de Renaud d'Elissagaray, notamment effectués aux Antilles et aussi à Cayenne. Donc, personnage intéressant qu'il est important de remettre à sa place dans cette fin du XVIIe siècle. Alors, pour travailler sur Renaud d'Elissagaray, nous avons un certain nombre de sources, de documents. Donc d'abord les archives de la marine, qui se trouvent aux archives nationales. Il y a tout un dossier sur Renaud, sur sa carrière, des documents sur ses écrits, mais aussi au ministère des Affaires étrangères, ce que vous trouvez sur MAE, parce qu'il a servi le roi d'Espagne et il a entretenu une correspondance avec le ministère aussi de la guerre. Le service historique de la défense à Vincennes, qui a aussi des rapports de Renaud d'Elissagaray, notamment pour le siège de Gibraltar. La bibliothèque nationale, où on va trouver les écrits de Renaud d'Elissagaray, et la bibliothèque Mazarine, avec des références assez intéressantes. C'est un débat scientifique entre un grand scientifique suisse, Jean Bernoulli, et Renaud d'Elissagaray. Enfin, dans un récit de voyage, celui de Gédéon Nicolas de Voultran, j'ai retrouvé le récit de Renaud Corsaire, en quelque sorte. C'est le voyage aux Amériques des campagnes de 1696. Donc, nous allons voir maintenant Bernard Delisagaray, qui est né en 1652 à Ramendiz. Donc, Amendariz, la dyslexie, excusez-moi, encore. Bon, je suis désolée. Et il a, dans son village près d'Ioldi, on peut retrouver sa maison natale. Je ne peux pas vous certifier à 100% parce que je n'ai pas pu rentrer, mais il y a un linteau où on retrouve le nom d'Elisagaray. Donc, en 1652, il naît en février dans une famille, il est le quatrième enfant d'une famille de cordonniers, son père est cordonnier. Donc, ce qui signifie que lorsque on propose à son père de prendre le jeune Bernard et de lui donner une éducation, il va accepter. C'est ce que je vais maintenant vous expliquer. Donc, le Plogue-les-Eaux, c'est le lieu en 1719 où Renaud Delisagaray décède. Saint-Simon dira que c'est parce qu'il a pris trop d'eau. C'est dans le Nivernais, il est allé se reposer, et bon, c'est là qu'il décède. Nous n'avons pas de portrait de Renaud Delisagaray, mais Fontenelle, qui a laissé son éloge à l'Académie des sciences, le décrit comme ayant une très petite taille, mais très bien proportionnée, et qui tirait de l'agrément de sa petitesse même l'air adroit, vif, courageux. Donc sa taille le fait surnommer le petit Renaud, parce que lui-même se nomme Renaud, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il s'appelle Bernard Delisagaray, mais tout le monde va le surnommer le petit Renaud. Vif, courageux, certainement, c'est tout ce que sa carrière va démontrer. C'est au même Fontenelle que nous devons l'expression d'amphibie guerrier, choisie pour le qualifier. C'est-à-dire pour souligner qu'il est très fin connaisseur de la marine et de la fortification terrestre. Donc c'est ce que nous verrons dans les deux premières parties, avant d'envisager le domaine scientifique qui fut le sien, dans un troisième point. Mais on peut vraiment se poser la question, comment ce fils de cordonnier du Pays Basque est-il devenu ingénieur et officier de marine, admis au Conseil royal de marine à Versailles, puis plus tard à Madrid. Donc, dans un premier point, je verrai Renaud et la marine. Son père accepte, lorsque Bernard a 9 ans, en 1661, qu'il devienne le page de la châtelaine d'Armendariz, Madame de Montréal, puis qu'une amie de la châtelaine, Madame de Gassion, nièce par son mari du maréchal de Gassion, séduite par sa vivacité, l'amène comme page dans son château d'Arbus, près de Pau, qui est la demeure donc de Jean de Gassion, qui a été intendant du Béarn et président du Parlement de Navarre. Le jeune Bernard y reçoit une solide formation avec les enfants du couple. Et c'est dans ce château qu'il rencontre le père de Madame de Gassion, qui n'est autre que Charles Colbert d'Uteron, le cousin germain de Colbert, intendant de marine, responsable de la construction du grand arsenal de Rochefort. Colbert d'Uteron remarque Bernard et l'invite en 1667 à Rochefort. Il a 15 ans et il apprend sur le tas la construction navale, tout en participant à l'aménagement de l'arsenal de Rochefort et en observant la construction du Soleil Royal, fleuron de la marine de Louis XIV. 7 ans plus tard, en 1674, Jean-Baptiste Seignelay, qui est le fils de Colbert et qui est associé à son père au secrétariat d'État de la marine, fait sa connaissance à Rochefort. Lui aussi est emballé par la vivacité du jeune homme. et il lui demande de le suivre à Paris, où il va poursuivre des études au collège du Plessis. Il lui trouve un emploi en 1679, c'est-à-dire qu'il le fait nommer conseiller pour les questions navales de l'amiral de France, le comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de Louise de la Vallière. Le jeune amiral de France est âgé de 12 ans. Vous voyez, donc il s'agit d'éduquer un adolescent. Renaud en a 27. Le roi qui approuve cette nomination lui demande aussi à Renaud d'enseigner la géographie et l'arithmétique de la sœur de l'amiral, la princesse de Conti. Donc le voilà entré dans, on peut dire, l'ère proche, familiale du roi. La fonction de Renaud lui donne accès au conseil de la marine, où il va se faire entendre pour proposer en 1680 une modification de la construction des vaisseaux de guerre. Jeune homme vif, jeune homme intrépide, il ose prendre la parole au conseil de la marine et dire « Mais ce que vous êtes en train de construire comme vaisseau, ça ne convient absolument pas. Il faut supprimer les lourds gaillards d'avant et d'arrière dont le poids augmente. » Le tirant d'eau, diminuer la courbure des navires, disposer les sabords en échiquier et uniformiser les calibres des canons. Après des discussions, il arrive à convaincre Colbert, Seignelay, puis Abraham Duquesne, le lieutenant général des armées de mer qui a un sacré caractère mais qui finit par apprécier aussi Renaud. Et il remet son mémoire sur les constructions des vaisseaux dans lequel il y a une méthode pour en conduire les façons. Donc en fait, dans son mémoire, et Colbert le confirmera, il invente une machine inédite à réaliser les gabarits de vaisseaux à partir d'une succession de plans de coupe. C'est une économie de bois et de temps de fabrication. Colbert est conquis. Mais il faut convaincre le roi. Renaud propose alors de faire manœuvrer sur le grand bassin de Versailles un modèle réduit de frégate qu'il a fait construire par un charpentier de Dunkerque. Le roi est convaincu dès qu'il voit la frégate mise à l'eau. Il envoie alors Renaud enseigner sa méthode de construction dans les chantiers de Brest, du Havre et de Dunkerque en 1680 et 1681. Donc le Basque va former les fils des maîtres charpentiers de marine. Et en même temps, en fréquentant ces chantiers, il va apprendre les quelques secrets qui sont jalousement gardés par les charpentiers de marine. Mais ces mêmes charpentiers, soucieux en fait de conserver leurs secrets et d'avoir une place parce qu'ils détiennent ces secrets, refusent la méthode de Renaud, disant qu'elle est beaucoup trop complexe. Mais en même temps, ils défendent leur position. Renaud, en 81, assiste toujours au conseil de marine. Il a pas de voix délibérative, il a juste une voix consultative. Donc il est à Versailles. Et il entend parler des projets de bombardement sur Alger. Alger est tenu par les barbaresques, hein, c'est-à-dire bon, des corsaires à la solde du sultan d'Alger. Les barbaresques d'Alger attaquent les bateaux en Méditerranée et font des esclaves ou des otages, qu'ils revendent ensuite, généralement, par l'intermédiaire des chevaliers de Malte. Donc, Renaud, au Conseil, se fait entendre en disant « Mais oui, on peut bombarder Alger depuis les bateaux. » Tout le monde écoute en disant « Mais ce n'est pas possible. Depuis les navires, on ne peut pas bombarder une ville et une ville fortifiée. » Donc, pourquoi ? Parce que le recul des mortiers ne serait pas supporté par les vaisseaux. Renaud propose alors un nouveau bateau appelé la galiote à bombe, un bateau rustique. Bon, ça, c'était Rochefort. Voilà le type de bateau, hein, le Soleil Royal, qui est le bateau amiral. Et voici, on a un dessin d'une galiote à bombe. C'est un bateau très rustique, à fond plat, 25 mètres sur 8,20 mètres à peu près, à deux mâts et à membrure renforcée, équipé d'un nouveau type d'armement, des batteries de mortiers pour lancer les bombes vers la terre ferme. Le mortier est inséré dans un encastrement de bois, de chêne et de sapin, et il est fixé sur la maçonnerie. En fait, la galiote correspond à l'utilisation d'une arme nouvelle pour la marine, le mortier. Elle est bien destinée à bombarder une place forte depuis la mer. Renault obtient de Louis XIV la construction de 5 galiotes à bombe. Et vous avez, rien qu'au nom, vous voyez ce que représente ce type de bateau. Donc la cruelle, la brûlante, la menaçante, la bombarde et la foudroyante. Après la déclaration de guerre du Dey d'Alger, qui s'est emparé en décembre 81 d'un bâtiment de la marine royale, réduisant en esclavage son commandant, le chevalier de Beaujeu, et se vantant de retenir près de 30 000 captifs chrétiens, Louis XIV décide d'envoyer une expédition commandée par Duquesne en juillet 1682. Renaud est présent, mais une de ses galiotes explose, donc c'est un demi-échec. L'escadre française revient en France. Renaud, immédiatement revenu en France, part en Périgord pour sélectionner les bombes dans les fonderies qui travaillent pour la marine, notamment dans le Nontronnais. Il part au Havre pour surveiller aussi la construction des nouvelles galiotes. Le roi décidant une nouvelle expédition sur Alger, fin juin 83, l'escadre dans laquelle se trouve Renault, qui est à bord du vaisseau amiral, va bombarder là, de manière efficace, avec les galiotes à bombes, le palais du Dey, qui saute, tuant un millier de défenseurs. Le Dey demande la paix à la France et libère 500 esclaves. Mais le Dey est renversé, il y a un soulèvement à l'intérieur d'Alger, le combat reprend. Le consul de France est exécuté, on l'envoie attaché à la bouche d'un canon. Donc l'ordre du roi arrive immédiatement, il s'agit de détruire Alger. On ne peut plus attendre. Du 23 juillet au 12 septembre, la ville va recevoir 3193 bombes. Donc là, il y a signature effectivement d'un accord de paix entre Alger et la France. Deux ans plus tard, Louis XIV, qui veut punir la République de Gênes, qui fournit des armes aux barbaresques, envoie le ministre de la Marine, Seignelay, bombarder Gênes. Ce dernier fait venir Renault, qui a augmenté la portée de tir des galiotes. Elle passe maintenant à 1700 toises, c'est-à-dire 3,3 km. Le bombardement a lieu du 20 au 28 mai 84, pendant 8 jours. 13 300 bombes tombent sur la ville, 3000 maisons détruites, la moitié de Gênes est brûlée. Le doge génois doit venir s'humilier à Versailles pour obtenir la paix. Ainsi, à la demande de Renault, 12 galiotes à bombes ont été construites pour la marine du Levant. La Méditerranée était soumise à la terreur des galiotes à bombes, présente entre autres à Alger, à Gênes, à Tripoli, à Tunis, à Villefranche, à Nice, à Barcelone, à Alicante, à Rosas, Palamos, Cadix, etc. Elles furent à la fois l'instrument d'une politique de répression, c'est-à-dire de destruction, et le fer de lance d'une politique de paix armée, c'est-à-dire d'intimidation. Je cite un des textes pour montrer aux corsaires qu'on était toujours en état de les forcer à maintenir la paix. Cette stratégie de la terreur eut toutefois ses limites. À un moment, Louis XIV, pris de scrupules, renonça à la construction de mortiers plus gros, capables de jeter des bombes de 1000 livres. Mais il faut bien constater que la proposition de Renaud et son invention a été largement acceptée et a semé la terreur en Méditerranée. Revenons maintenant à Renaud. Celui-ci était à Gênes, il revient avec l'escadre qui va croiser devant la Catalogne, où le maréchal de Bellefond tente de prendre Cadaqués par un siège, en vain. Renaud propose alors un plan d'attaque de la ville qui réussit. On commence alors à parler aussi des talents de Renaud pour des plans d'attaque et notamment des plans d'attaque terrestres. Toujours au conseil de la marine, la France qui a à faire face à partir de 1689 à une coalition des flottes hollandaises et anglaises quand Guillaume d'Orange devient aussi roi d'Angleterre, la flotte française qui était la plus puissante d'Europe avant 89 se voit opposer deux marines extrêmement importantes et dès lors se pose la question du développement. Est-ce qu'on continue à développer des gros vaisseaux ou est-ce qu'on passe à une autre forme de guerre marine ? Renaud défend l'idée de la construction de gros vaisseaux de premier rang pour tenir tête aux flottes anglaises et hollandaises coalisées. Louvois est contre. Louvois, c'est le secrétaire d'État à la guerre. Vauban, qui est présent, est pour. Et donc, les discussions sont très intenses pour savoir ce que l'on va, en fait, adopter comme stratégie maritime. Pour convaincre le roi, Renaud, une nouvelle fois, fait construire des maquettes de bateaux en cuivre, les fait manœuvrer sur le grand bassin de Versailles, pour expliquer aussi, non seulement, bien sûr, sa position à l'égard des gros vaisseaux de premier rang, mais surtout, sa théorie de la manœuvre des vaisseaux, texte qu'il fait publier en 1689 de manière anonyme avec l'aide d'un académicien des sciences, Sauveur, qui va l'aider dans la rédaction de ce texte. Donc, pour Renaud, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à manœuvrer, d'où sa théorie de la manœuvre des vaisseaux. Le roi continue à considérer qu'il peut jouer un rôle important, même dans les combats navals. En 1690, il va embarquer donc sur le Soleil Royal, le plus gros vaisseau, le vaisseau amiral de Tourville, qui commande une escadre d'une centaine de navires, et Renaud, avec Tourville, vont attaquer une flotte anglo-hollandaise au Cap Bévezier. Et à la suite d'une belle canonnade, ils arrivent à prendre 17 vaisseaux à l'ennemi. Tourville va écrire « Le petit Renaud a eu la basque, bon, sans jeu de mots, hein, de son juste au corps, c'est le nom hein, de la partie du vêtement, hein, son juste au corps, emporté par un boulet qui lui a passé entre les jambes en ce temps qu'il dressait un plan. Il a de l'esprit, de la capacité, beaucoup de valeur, et d'un bon conseil. » Donc tous les témoignages qu'on peut avoir sur Renaud d'Elissagaray sont positifs. Seignelay, donc ministre de la Marine, qui en est convaincu, annonce à Renaud qu'il va recevoir le grade de capitaine de vaisseau et celui d'ingénieur général de la Marine, et une voix délibérative au conseil de la Marine. Le tout assorti d'une pension de 12 000 livres, ce qui est quand même une coquette somme. Mais malheureusement, Seignelay meurt prématurément le 3 novembre 90 et son successeur, Philippot, comte de Pontchartrain, ne connaît pas Renaud. Aussi, la reconnaissance se fait attendre. Les relations personnelles sont extrêmement importantes aussi à cette époque. C'est 5 mois plus tard, le 1er mars 91, qu'on va lui accorder ce qui lui était promis, donc tous les avantages déjà mentionnés. Et le 26 avril 91, une instruction particulière du roi définisse ses, voilà son ouvrage, hein, la théorie de la manœuvre des vaisseaux, 1691. Donc le 1er mars 91, on va préciser les missions de renom d'Elisagaray. Vous allez voir qu'elles sont énormes. Tout d'abord, une mission de conseil auprès des officiers généraux pour la navigation et les mouvements des bateaux. En escadre, c'est lui qui va dresser les ordres de marche et de bataille pour l'amiral d'escadre et qui va composer les signaux correspondants. Dans les ports, il va expliquer les ordres de marche au capitaine, enseigner dans les écoles d'officiers de marine, inspecter les cartes et les fortifications, faire procéder à des manœuvres, proposer des ordres de bataille chaque fois que la marine aura à faire des opérations terrestres. C'est bien la reconnaissance de sa double appartenance mer-terre. Il va professer donc à l'école de marine à Brest, et un petit épisode est quand même à signaler, c'est que les officiers nobles, parce qu'il est roturier, parce qu'il est ingénieur plus jeune qu'eux, refusent de suivre ses cours. Donc il s'agit de Hyacinthe Castel, le comte de Saint-Pierre, hein, le frère de l'abbé de Saint-Pierre et le chevalier des Adrets. Louis XIV va les punir sévèrement, 1 an de prison et perte de leur charge, alors qu'ils sont capitaines de vaisseau. Ce qui veut dire qu'il soutient vraiment Renaud, qui intervient pour que, en fait, les peines soient allégées, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc, mais il subit bien quand même la différence, je dirais, de classe aussi. Hein, et il n'est en fait qu'un fils de cordonnier. Il continue ses travaux dans les arsenaux. Il va rénover complètement le soleil royal. Et il va créer un nouveau type de frégate. Le modèle, c'est la Serpente, qui est construite sous son contrôle, et c'est la frégate la plus rapide jamais construite. Donc, vous voyez, il est vraiment aussi dans l'innovation, dans la construction marine. Mais nous sommes dans la guerre d'Augsbourg, qui a commencé en 1688. Et la marine française connaît en 1692 un désastre, le désastre de la Hougue. Et Renaud, qui avait approuvé Tourville, qui ne voulait pas sortir l'escadre parce que les temps étaient mauvais, mais Tourville reçoit l'ordre d'attendre l'escadre qui arrive de la Méditerranée. Malgré le mauvais temps, on lui ordonne de sortir, il le fait. Et les bateaux sont détruits très largement. Il y a 22 bâtiments qui vont être détruits sur 44 de la flotte française. Ceux qui vont être à peu près en état vont réussir à naviguer jusqu'à Saint-Malo, où le roi envoie très vite Renaud pour les réparer. Donc, il est au Conseil de la Marine, il va défendre aussi l'idée qu'il faut arriver à changer de stratégie. La guerre d'escadre, il va falloir l'abandonner. On n'en a plus les moyens. Mais il faut plutôt pratiquer les blocus ou pratiquer la course. Donc, il propose en 93 de bloquer les approvisionnements de l'Angleterre. Tourville est envoyé pour attaquer la flotte anglaise qui part pour Smyrne. On préfère attaquer un bateau ou un convoi chargé de marchandises, et là, au large du Portugal, les Français vont effectivement capturer 90 navires anglais sur 140 avec des cargaisons extrêmement importantes. Il est toujours chargé aussi des constructions, et il va, c'est sa grande réalisation, faire construire son chef-d'œuvre, on pourrait dire, en matière de construction navale. C'est un vaisseau de ligne de 800 tonnes, 56 canons. C'est le vaisseau Le Bon, qui est beaucoup plus mince que les autres bateaux que l'on construisait et qui est donc beaucoup plus rapide. C'est un bateau sur lequel il va pouvoir aussi mener des expéditions contre les vaisseaux anglais. Il a réussi au large de la Cornouaille à intercepter un bateau anglais qui arrive de Madras. Alors je vous donne, c'est parce que c'est une anecdote, après l'échange de bordées, Renaud fait monter à l'abordage 100 hommes. La résistance est dure, les Anglais se battent, mais finalement le bateau est pris. C'est une prise de 500 000 livres, dont 10 paquets de diamants de grand prix. Il donne un paquet à ses officiers et le reste au roi. Il libère sans rançon les officiers anglais et les passagers, ce qui lui vaut la réputation d'homme d'honneur et de grande probité. D'aucuns ont regardé certains sachets de diamants. Hein. Lui a absolument tout remis. Absolument tout remis. Renaud va participer à la guerre de course. Et voilà Renaud qui est corsaire. En 1696, il fait partie de l'escadre composée de 4 vaisseaux du roi, de 40 à 60 canons, et lui-même va commander l'Intrépide, qui a un équipage de 500 hommes, mais 66 canons. Donc il est avec trois autres bateaux, qui sont commandés par exemple l'amiral de Gênes, hein, c'est des marins importants, et ces bateaux vont être aussi accompagnés par ceux qui sont armés par des privés. Vous savez que la course, c'est aussi une opération qui peut rapporter beaucoup. On risque beaucoup, mais on peut gagner beaucoup. Donc, on mise sur l'armement qui va être très important. Donc, au total, on a 1600 hommes, 342 canons. Et l'officier Boutron, qui a laissé le témoignage, qui était avec Renaud dans cette expédition, écrit que le seul nom de Renaud assura le succès de l'armement, là où on doit mettre des fonds privés hein, pour armer trois bateaux. On parlait de l'armement de M. Renaud, et quoique peu de gens en sussent le secret, on était si persuadés que le dessin en était si bien dirigé que tout le monde souhaitait s'y intéresser. Le mérite, le savoir et la bonne fortune de ce capitaine de vaisseau suffisaient à la plupart pour être sûr de l'événement. L'armement de M. Renaud fut d'un goût général et il ne fut pas plus tôt résolu que chacun ouvrit sa bourse pour avoir part dans une entreprise qu'on croyait infaillible. Voilà la réputation de Renaud, hein, vous voyez, Renaud corsaire. Donc il part de La Rochelle et vers Veracruz, au Mexique, pour intercepter les galions espagnols. Ils vont d'abord s'arrêter à la Martinique. Renaud fait appel aux flibustiers français qui sont dans l'île de la Tortue pour un montant de prise précis. Il doit venir les aider. Et ils vont piéger les galions espagnols près de Saint-Domingue, dont le gouverneur est le Béarnais Jean-Baptiste Ducasse. Donc le pont Chartrain, le nom d'un bateau, arrive à prendre un vaisseau espagnol de 40 canons qui est chargé de cannelle, de cacao, de quinquina, d'eau de vie, d'une valeur de 130 000 livres environ et 100 000 écus en monnaie. Bon, il prend aussi un bateau anglais un peu plus petit. Bon, il passe à Haïti, il en profite pour fortifier au nord-ouest de l'île le port de la paix qui avait été pris par les Espagnols, les Anglais et les Hollandais qu'il avait complètement pillé et massacré en 1695. Là, nous sommes un an plus tard. Cependant, donc Renaud attend avec tous ses bateaux que d'autres galions espagnols passent. Mais les Espagnols qui avaient été informés de la présence française n'envoient pas les galions. Donc Renaud va revenir en France avec des équipages atteints de scorbut, du pourpre et même de la peste. Et il va rentrer et s'échouer dans la rivière de Rochefort avec une voie d'eau impossible à étancher. Cependant, les prises permettent de payer la mise de fonds, mais on n'est pas revenu avec la richesse espérée. Pourquoi cet échec? en partie en raison des difficultés relationnelles de Renaud avec les flibustiers de l'île de la Tortue, qu'il n'a, semble-t-il, pas rétribué comme il était prévu. Ensuite, l'échec est certainement dû aussi au fait que l'expédition était connue des Hollandais et des Espagnols. Espionnage, indiscrétion, on ne sait pas, mais en tout cas, les bateaux n'ont pas pu jouer vraiment leur rôle. Donc je voudrais passer maintenant à la deuxième partie, parce que Renaud d'Elissagaray, c'est aussi un défenseur sur terre, hein, c'est l'amphibie guerrier. Il va apprendre la fortification et les techniques de siège à partir de 1683. Pourquoi ? Parce que son élève, le duc de Vermandois, décède. Le jeune fils de Louis XIV, hein, qui n'était pas légitimé, décède. Donc il n'est plus précepteur, en quelque sorte. Seignelay décide de l'envoyer comme ingénieur auprès de Vauban, notamment au siège de Luxembourg en 1683. Et c'est là qu'il va commencer à mériter le qualificatif de fontenelle. Seignelay souhaite qu'il reste de 85 à 88 avec Vauban, qu'il travaille aux fortifications du nord et de l'est de la France, qu'il participe à la sinistre campagne du Palatinat, hein, quand on parle du sac du Palatinat. Il va faire le siège de Philisbourg, au cours duquel il est blessé à la jambe, et au cours duquel il va rester à son poste dans la tranchée pendant 19 jours. Tout ça parce qu'on avait dit à Vauban qu'il ne fallait pas qu'il aille dans la tranchée, il avait l'ordre de ne pas y aller pour qu'il reste en vie. Et c'est Renaud qui est parti vraiment dans la tranchée pour surveiller toutes les actions. Il est blessé plusieurs fois dans cette campagne, et on peut dire que Vauban l'apprécie et vraiment l'initie à la fortification terrestre. Louis XIV reconnaît ses mérites parce qu'il demande Renaud pour le siège de Mons en 91 et il demande Renaud pour le siège de Namur en 92. Donc, c'est un ingénieur, on pourrait dire aussi terrestre. Il va faire des travaux de fortification, il va fortifier Saint-Malo, l'ensemble des côtes bretonnes septentrionales. Et il envoie 12 rapports qui sont conservés aux archives nationales secteur de la marine. En 94, il est encore aux côtés de Vauban, chargé d'empêcher un débarquement anglais à la pointe du Finistère à Camaret. En 95, il est envoyé sur les côtes provençales inspecter les fortifications. Bon, c'est une énumération qui est un peu fastidieuse, mais c'est pour montrer son rôle, en fait. On l'envoie absolument sur tous les fronts, sur toutes les côtes, pour les fortifier. En 99, on l'envoie aux Antilles, avec l'ordre de fortifier les Antilles, de fortifier la Guadeloupe, de fortifier la Martinique. Et il va tenir Vauban au courant des projets. Il lui envoie les documents, et c'est comme ça que j'ai retrouvé un certain nombre de cartes et de plans de fortification signés Renaud dans les archives de Vauban. Ici, c'est la Guadeloupe, la carte de l'île de la Guadeloupe. Il fait aussi des cartes. Il envoie des... Voilà, encore, si vous trouvez sa signature à gauche, hein, en 1700. Donc, c'est des... tous les plans, là, c'est l'île à Boissier. Il arrive en fait à faire un travail assez fantastique, mais il demande toujours, bien sûr, l'aval de Vauban. Une lettre du ministre Jérôme de Pontchartrain à Vauban du 14 mars 1703 atteste de ce travail de Renaud. Le ministre écrit à Vauban : je vous avais remis avant votre départ deux portefeuilles des projets de M. Renaud sur les ouvrages à faire dans les îles de l'Amérique pour les fortifier et mettre dans chacune des lieux en état de résister aux attaques des ennemis. J'en ai encore deux autres à vous donner, quand vous le voudrez, et lorsque vous les aurez examinés, vous me les rendrez tous quatre avec vos observations, afin que de quelques jours des temps plus tranquilles, permettez d'y travailler, on puisse le faire sans crainte de manquer, puisqu'on suivra ce que vous aurez approuvé. Donc voilà, on a Renaud qui fait les plans, il fait aussi, vous voyez, des cartes. Là, la carte de la Martinique, hein, la baie de Martinique. des écrits sur les projets pour l'île de la Guadeloupe qui sont signés, vous avez sa signature ici à droite. Donc, très très nombreux exemples, et si vous allez sur le site de la BNF, sur Gallica, on a des cartes de Renaud aussi, de 1700, qui sont conservées. Bon, là, mais sa carrière ne se termine pas là, parce que après l'acceptation du testament espagnol de Charles II par Louis XIV, Charles II meurt en 1700, et dans son testament, il choisit le petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, pour devenir roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V. Bon. Louis XIV a accepté, et Philippe V passe à Bayonne en janvier 1701 pour se rendre à Madrid. Il a besoin d'ingénieurs et d'artilleurs. Un de ses proches, le marquis de Louville, demande Renaud. La réputation de Renaud est telle que même en Espagne, on va recommander à Philippe V Renaud, il est alors capitaine de vaisseau et inspecteur des constructions navales en France. Et on ne sait pas exactement à quelle date il arrive, mais déjà le 6 avril 1701, le roi est arrivé en janvier, il remet au duc d'Harcourt, qui est proche de Philippe V, les plans de Cadix et de Gibraltar. Philippe V s'attache à lui et le reçoit vraiment à chacun de ses retours d'inspection. Il lui confère le grade de sergent général de bataille et va lui accorder diverses gratifications. Mais Renaud a un travail énorme. Il doit inspecter les ports espagnols, les ports de Galice, la Corogne et Vigo, dont il dit qu'ils sont dans un très mauvais état. Et il est trop tard pour empêcher l'attaque anglaise de 1702. Il essaie de réparer, mais il s'entend avec le financier français Jean Horry, qui est venu aider Philippe V, et tous deux proposent des plans de défense qui ne nécessitent pas de grands efforts, mais au moins contre les surprises et contre des descentes dans les endroits où on sait que les ennemis pourraient entreprendre quelque chose. Le manque flagrant d'argent fait que tous les projets que Renaud soumet pour mettre ses ports en état de défense ne sont pas accomplis, faute d'argent. Et il dit lui-même, Horry, donc le financier, dit « Monsieur Renaud, qui fait actuellement la fonction d'ingénieur en chef, est si digne de la confiance qu'on a en lui, qu'on peut lui laisser et le choix des officiers français et espagnols, la conduite des ouvrages et des fonds, dès qu'il aura de quoi faire travailler. » Donc c'est toujours la même appréciation positive. Il envoie tous ses plans, il les envoie aussi en France, et il va être nommé en 1704 maréchal de camp et lieutenant général des armées de terre du roi d'Espagne. Il n'était pas le seul ingénieur français. Une historienne, Catherine Dessos, a dénombré 69 ingénieurs français venus aider Philippe V pendant cette période. Mais c'est certainement celui à qui on fait appel le plus souvent, et parce qu'on sait qu'il est très travailleur et aussi qu'il a une probité à toute épreuve. À la fin de l'année 1704, le seul exemple que je citerai, c'est le siège de Gibraltar. Gibraltar est tombé à la fin de l'année 1704 aux mains des Anglais, au mois d'août, pardon, faute de fortifications, malgré les demandes de subsides de Renaud. Il restait que 30 miliciens pour résister aux Anglais. Donc il faut reconquérir Gibraltar. C'est ce que les Français vont faire. Renaud et Villars-Lugin, c'est notre ingénieur, ils vont organiser les ouvertures de tranchées face aux pitons de Gibraltar, nécessitant plus de 1000 ouvriers. Mais l'autre ingénieur, Villars-Lugin, constate l'armée faible devant la place, ayant affaire à une garnison nombreuse, les Anglais ont renforcé Gibraltar, composée de vieilles troupes aguerries, la situation resserrée du front de l'attaque, la difficulté du terrain, les vues et plongées inévitables de la montagne, la médiocrité des troupes, le défaut de matériaux, celui des munitions, tout engage à ne pas pousser en avant un travail aussi difficile à perfectionner qu'à soutenir. En avril 1705, il lève le siège de Gibraltar. Gibraltar est définitivement perdu. Au même moment, les provinces de Valence, d'Aragon, de Catalogne donnent des signes de révolte. Et donc, Philippe V demande plusieurs fois à Renaud de l'accompagner, notamment au siège de Valence. À partir de 1706, il reste à Cadix et il y demeure jusqu'en 1709. Et c'est à Cadix qu'il va construire un fort qui est le fort Louis, qui se trouve ici, appelé aussi Trocadéro, que les Français essaieront de reprendre sous Napoléon. Mais Renaud en a assez, vraiment assez. Il écrit au ministre français: certainement on me fait bien de l'honneur, hein, parce qu'il sait qu'il est apprécié en Espagne, mais je ne puis pourtant faire de la poudre sans machine, ni salpêtre. Je n'ai point assez de force pour remuer et faire venir l'artillerie sans affût, ustensile de canon, ni écanonnier. Et il rappelle au ministre: j'ai pris plusieurs fois la liberté de vous représenter, monseigneur, l'embarras dans lequel je me trouve, faute d'être payé de mes appointements par le trésorier de la marine. Il y a 3 ans que je vis en empruntant de tous côtés, payant 12% d'intérêt. Encore faut-il que je trouve des marchands qui en répondent sur leur nom. Et il y a un temps que je voudrais être au fond des Indes, condamné à y passer mes jours. Donc, d'après Fontenelle, et on le comprend bien, Renaud va revenir ruiné de son séjour espagnol, désespéré de ne pas avoir pu mener à bien les travaux préconisés, faute d'argent, et empêché par les nobles espagnols qui n'acceptaient pas d'être commandés par les Français. Il y a eu une forte résistance espagnole. Donc en 1709, il rentre à Armendariz, il s'arrête à Bayonne, chez le notaire Maître Dugollard, pour faire son testament, signé le 5 octobre 1709. Son frère Jean, qui est curé, devient son légataire universel, mais il lui demande de verser une rente viagère de 2000 livres à chacun de ses frères et 500 livres à sa sœur. Donc Renaud, qui est toujours lieutenant général de l'armée de terre, il siège toujours au Conseil royal de la marine, il est honoré, il est grand croix de l'ordre de Saint-Louis à partir de 1714, et toujours apprécié, puisque le grand maître de l'ordre de Malte, Don Ramon Pereyos, demande que ce soit Renaud qui vienne à Malte en 1716 quand les Turcs menacent d'attaquer. Le régent est d'accord, mais finalement c'était une fausse alerte, donc Renaud ne part pas. Et en fait il va, sous la régence, donc après le décès de Louis XIV, sous la régence de Philippe d'Orléans, jouer un rôle qui est un peu inattendu pour Renaud, il va avoir à surveiller l'application d'une réforme de l'impôt. Le régent qui nomme au Conseil des Finances le marquis d'Argenson, qui est un admirateur de Vauban, décide d'appliquer la dîme royale de Vauban. Donc cette fameuse réforme fiscale qui devait amener le paiement de l'impôt par les nobles, par le clergé et proportionnellement aux biens que l'on avait et aux récoltes si on est dans le domaine agricole, le régent fait appel à Renaud pour surveiller dans l'élection de Niort et dans celle de La Rochelle, l'application de cette réforme fiscale. Donc, il vient en 1718, notamment dans l'élection de Niort, et la dîme devait remplacer la taille et la capitation. Elle était proportionnelle et se levait en nature presque sans frais, ce qui devait être favorable aux campagnes. L'expérimentation va complètement échouer. D'abord, elle n'était pas fidèle aux idées de Vauban. L'égalité devant l'impôt n'était pas respectée parce qu'il y avait un bon nombre de paroisses et d'objets qui devaient être décimables et qui ne l'étaient pas. De plus, les résistances étaient alimentées par les nobles et les clercs. Et d'après Renaud, les villageois, mal informés, étaient poussés à la révolte. Donc, Renaud quitte l'élection de Niort en 1719. Le régent poursuit sa réforme jusqu'en 1723 et finalement il va devoir arrêter face à l'opposition de la population. Donc Renaud termine sa carrière, on pourrait dire, là, dans une mission qui peut paraître surprenante. Mais je voudrais voir le dernier point un peu rapidement, c'est Renaud, scientifique et inventeur. Il a été reconnu dans ce rôle-là, puisqu'il a été nommé par le roi à l'Académie des sciences comme membre honoraire en 1699 pour ses compétences mathématiques. En tant que membre honoraire, il va présider les séances de la section de mathématiques en 1714. Alors, quelles sont ses compétences ? Ses compétences, c'est dans la construction navale. Il a voulu uniformiser les tracés à l'aide de sa machine. Et dans l'histoire des techniques constructives, en tant que méthode qui promeut un art du tracé géométrisé des carènes, elle s'inscrit dans un mouvement de rationalisation des pratiques qui est beaucoup plus large en cette fin du XVIIe siècle. Elle touche toutes sortes de métiers et d'activités techniques ayant en commun de pouvoir être enseignées et de tenir leur efficacité du recours à la géométrie, aux mécaniques, aux calculs et même à la physique. Donc, la démarche de Renaud, c'est qu'il se fonde sur un caractère théorique et il la rend applicable à l'aide d'un instrument mathématique. Il veut introduire de la rationalité dans la navigation et dans la construction des vaisseaux. Jusque-là, les connaissances du XVIIe siècle, il n'y avait pas d'hydrostatique, d'hydrodynamique. Donc, l'ambition de cette méthode de tracé, c'est de supplanter celles diverses qui sont utilisées dans les ports par les maîtres charpentiers. C'est la diversité qui est l'objectif, il faut éliminer cette diversité. Donc, pour les maîtres charpentiers, il s'agit bien d'une innovation au sens que ce mot avait à l'époque, c'est-à-dire une invention qui met en cause leur statut dans l'organisation des chantiers et en particulier la mainmise que leur confère alors des compétences techniques qu'ils sont seuls à exercer et qui se transmettent exclusivement à l'intérieur de la lignée familiale. Donc on comprend les résistances des maîtres charpentiers qui perdent leur prééminence. Et il faut savoir que l'Académie des sciences a discuté le mémoire de Renaud en plusieurs séances. On a des procès-verbaux qui montrent bien que les académiciens ont travaillé sur ce texte. Et l'intérêt de sa méthode est suffisamment reconnu pour que finalement, on décide qu'elle doit être enseignée dans les ports. Donc, il a réussi et des bateaux ont été construits selon la méthode de Renaud. À partir de 92, on va aussi appliquer sa méthode en régularisant complètement les tracés. Donc le mémoire de Renaud jette un éclairage particulier sur la façon dont un ingénieur du XVIIe siècle pouvait concevoir les rapports entre la philosophie naturelle et les arts de la construction. Renaud se propose d'appréhender l'interaction entre l'air et les voiles d'un navire, puis entre la coque du navire et l'eau, avec ses connaissances de la science du mouvement et des machines. Les termes utilisés, ainsi que le principe de physique sur lequel s'appuie Renaud, renvoient sans ambiguïté aux écrits de Descartes, et plus particulièrement au premier chapitre de la Dioptrique. En outre, dans plusieurs passages, Renaud insiste sur la nécessité de connaître la géométrie, mais une géométrie qui traite des courbes décrites par certains instruments machines. Et là aussi, il faut faire appel aux conceptions cartésiennes. Donc, Renaud permet de déjouer l'affirmation selon laquelle la pensée de Descartes n'aurait été que spéculative. et ces raisonnements analogiques seulement. La réforme technique là, de Renaud montre qu'en suivant les principes de Descartes, on est arrivé réellement à une transformation. Donc, il a publié aussi, et ça, ça va être discuté, la théorie de la manœuvre des vaisseaux, qui va être discutée par le grand savant néerlandais, qui est aussi à l'Académie des sciences, Christian Huygens, qui va contester une partie de la théorie de la manœuvre des vaisseaux de Renaud. Renaud va lui répondre par un mémoire dans lequel il démontre un principe de la mécanique des liqueurs dont il s'est servi. Donc on a un débat scientifique qui montre bien que Renaud est impliqué dans cette mouvance scientifique du début du XVIIIe siècle, avec des savants qui cherchent toujours une application pratique de leur théorie. Enfin, un autre savant suisse, Jean Bernoulli, reprend le débat avec d'autres arguments et il publie à Bâle, en 1714, « Essai d'une nouvelle théorie de la manœuvre des vaisseaux » avec les lettres qu'il a échangées avec Renaud sur le sujet. Donc, ça montre clairement que Renaud est impliqué dans les débats des spécialistes internationaux de sciences appliquées. Donc, en conclusion, le 29 septembre 1719, Renaud décédé à Pougues-les-Eaux, ville thermale de la Nièvre, et Fontenelle rappelle immédiatement qu'à l'instar de Vauban, dont il avait été l'élève, il avait été géomètre, mathématicien, astronome, savant, en castramétation, en construction navale, en navigation. Bernard d'Elissa Garay est resté célibataire. Il ne s'est pas enrichi. Il a acheté en 1698 le château de Lalanne dans le Lot-et-Garonne, où il ne semble pas avoir séjourné. Il le lègue à son frère, qui le laissera à son neveu. Apprécié de Louis XIV, de Philippe V et du régent, il a été récompensé par l'ordre de Saint-Louis, par l'Académie des sciences, et la postérité a largement oublié ses travaux et ses actions, mais les différentes études historiques soulèvent aujourd'hui des pans de ses réalisations. Et je pense que nous pouvons dire que, même s'il n'est pas illustre, c'est un homme qu'il faut connaître. Je vous remercie.
Renaud d'Elissa Garay, 1652-1719, un basque amphibie guerrier sous Louis XIV. Vous venez de suivre une conférence de Michel Virol de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, professeur des universités en histoire moderne à l'Université de Rouen, conférence enregistrée le 20 octobre 2021 à la Peña Taurine Côte Basque à Bayonne.